Allez, 18h12 sur Radio Campus Paris. Nous sommes le lundi 12 juin. Vous écoutez donc Radio Campus Paris en FM sur le web et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, bienvenue pour la relève. Ce soir encore, c'est 30 minutes avec un jeune talent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler encore de famille, mais aussi d'asile, de la vie et de la mort d'Anne Décimus, car il est important de dire son nom. Mon invité est autrice.
Bonjour. La relève sur Radio Campus Paris.
Toute ma vie, j'aurai un problème avec cette virgule. Bonsoir Stéphanie. Alors, juste avant, on dit Dupay, Dupayis.
On dit Dupay. Mais merci pour la jeune autrice.
Ah, mais vous êtes une jeune autrice. Un puma dans le cœur aux éditions L'Olivier, c'est votre troisième roman. Les deux premiers, Brillantes et Comme elle l'imagine, étaient parus au Mercure de France. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire ou pas. D'un puma dans le cœur, c'est un récit autour de ce qu'on appelle un secret de famille, ce que vous appelez. Et très justement un mensonge en fait. Pour résumer, votre grand-mère vous a toujours dit que sa mère était morte d'amour quand elle était enfant. Et à l'occasion de recherches généalogiques entreprises par votre mère, c'est une histoire de femme, vous découvrez que la date de mort et le lieu ne coïncident pas avec ce qu'on vous a toujours dit. C'est pas trop mal résumé, ça va ?
Voilà, oui, c'est exactement le point de départ de ce livre. Il y a quelques années, ma mère, quand elle s'est mise à la retraite, a commencé à faire des recherches de généalogie, comme beaucoup de retraités, et je l'ai aidée à trouver des archives numériques. Et j'ai trouvé le certificat de décès de mon arrière-grand-mère, Anne Décimus, dont on m'avait dit pendant toute mon enfance qu'elle était morte de chagrin. C'était ces mots que ma grand-mère répétait. Donc, morte de chagrin, le cœur brisé à la mort de son mari. Ce qui avait envoyé ma grand-mère à l'orphelinat, et la date de décès ne correspondait pas du tout au moment où ma grand-mère a été envoyée à l'orphelinat, c'était 40 ans plus tard. Donc cette révélation a créé un choc, parce que je pense être, dans mon esprit de petite fille, cette arrière-grand-mère était un personnage quasi légendaire. Une femme morte d'amour, ne survivant pas à la mort de son époux, c'était très très romantique, très romanesque, mais en fait c'était pas du tout ça.
Mais qu'est-ce qui vous décide d'en faire un livre ?
Alors, le livre n'est pas venu immédiatement, le livre est venu bien des années après. Sur le moment, j'aurais été incapable d'en faire un livre parce que j'étais incapable d'en, ne serait-ce que d'en penser une phrase. Ça a créé chez moi un choc, un bouleversement. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, parce que c'était finalement une ancêtre que j'avais pas connue. Je comprenais pas la violence de ce choc. Donc il a fallu des années pour comprendre pourquoi cette histoire me bouleversait autant. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un peu l'histoire du livre. Pourquoi cette femme, la vie de cette femme, me touche autant des générations après. Il a fallu aussi que j'ose m'aventurer sur le terrain de l'intime, alors que mes deux premiers livres étaient de vrais romans. Et c'est vrai que c'est pas mon terrain privilégié. Donc il a fallu que j'ose m'aventurer là et que je trouve une forme surtout pour faire ça.
Vous dites d'ailleurs, ce troisième livre d'ailleurs, je vais vous demander, est-ce que pour vous c'est un roman, parce que je n'ai pas vu cette mention sur le livre.
Alors tous les livres de l'Olivier, les livres ne précisent pas si c'est roman ou récit. C'est vrai que ça tombe particulièrement bien pour ces livres-là, parce qu'il y a une certaine ambiguïté entre ce qui est la fiction, ce qui ne l'est pas, si c'est un roman ou pas.
Votre mère vous a prévenu, hein, vous le dites, nos vies ne sont pas des romans. Alors je ne sais pas si c'est Tolstoï, si les gens heureux n'ont pas d'histoire, est-ce que c'est la même idée, des petites gens, parce que c'est ce qu'on pourrait parler après.
Non, je pense que c'est
après.
Plutôt ça.
On n'est pas des gens intéressants.
Mais c'est ça, c'est plutôt ça. Je pense que ma mère et ma grand-mère, si elle avait vécu jusque-là pour le voir, n'auraient jamais imaginé certainement faire l'objet d'un roman, parce que leurs vies sont effectivement font peu l'objet d'écrits, hein, même si y a tout un courant aujourd'hui de réhabilitation des vies minuscules dans le roman, et peut-être aussi d'ailleurs en histoire ou en sociologie. Ce ne sont pas des vies traditionnellement romanesques, et ce ne sont pas des vies qui ont donné lieu à beaucoup d'écrits aussi.
Mais est-ce que ça a été jusqu'à vous reprocher de vous y intéresser ou pas ? Parce que dans le livre, on a l'impression qu'elle vous laisse faire.
Oui. Je pense pas qu'on m'ait reproché de m'y intéresser. Par contre, ce qui est vrai, c'est que ma mère et mes parents, de façon plus générale, comprenaient pas bien cet intérêt pour une vieille folle morte il y a très longtemps qu'on n'a jamais connue, et alors que quand même on a bien d'autres choses à faire aujourd'hui maintenant. Et
oui, parce que ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux générations qui finalement semblent s'en moquer. Enfin, la révélation que vous leur faites, on en parlera un peu plus tard, ça a pas l'air de les enfin c'est la vie continue, ils apprennent, ils le notent, et puis bon, on continue de vivre.
Oui, oui,
pas votre grand-mère meurt peu de temps après, pardon.
Alors, c'est souvent comme ça. Là, je parcours beaucoup, enfin, je rencontre beaucoup de lecteurs et de libraires. Je fais souvent des rencontres en librairie et je me rends compte que ça, c'est vraiment une caractéristique des secrets de famille. Il y a toujours un membre de la famille qui va se sentir investi de la mission d'enquêter, mais le reste de la famille s'en fiche.
Ah oui. Alors, en fond, vous racontez quand même que vous doutiez peut-être de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu là récemment au cinéma L'Île Rouge, le très beau film de Romain Campillo. Il y a un peu un lien entre vous deux. Vous l'avez vu ou pas ?
Pas encore. Non.
Ah, parce qu'il y a un peu un lien entre vous deux, c'est que dans le film, l'enfant voit des choses qu'il ne devrait pas voir. Il sait et du coup, il se retrouve à savoir des choses qu'il ne comprend pas. Et on a un peu cette impression-là, c'est que vous avez vu. Il y a un truc que vous sentiez, non ?
Oui, il me semble qu'on sent quand même des choses, même si il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de silence. Moi, je sentais une inquiétude qui était difficile à expliquer par des raisons objectives. Parce que finalement, dans cette famille, tout allait bien. Ma grand-mère vivait avec nous, avec mes parents. C'est vrai qu'elle avait une vie difficile. Elle a été orpheline très tôt. Elle a perdu son mari. Mais ensuite, bon, là, tout allait bien. Et il y avait quand même une impression de fin du monde imminente.
Qui d'ailleurs, elle a peut-être beaucoup projeté sur vous, d'après ce que vous racontez. Parce que, particularité, c'est que vous êtes dans une famille où vous vivez à trois générations.
Oui, oui, ce qui est une particularité. Alors aujourd'hui, ça paraîtrait très bizarre. Dans les vieilles familles paysannes, ça l'est quand même peut-être moins. Mais effectivement, il y a quelque chose, moi, qui m'avait toujours frappée, enfin, ou du moins qui m'a frappée ensuite quand j'y ai réfléchi, quand j'ai eu l'âge de pouvoir y réfléchir et de pouvoir me rendre compte que c'était peut-être pas très normal. Il y avait une forme d'inquiétude diffuse. Hein, et il y avait cette idée que, bon, pour l'instant, tout allait bien, mais que ça n'allait pas durer. Et que tout pouvait être sujet de catastrophe.
Et c'est ce que vous dites. Hein. Vous écrivez, là encore, je vous cite, « On hérite surtout d'une façon de voir le monde ». C'est peut-être ça le principal enseignement de cette histoire.
Oui, et je crois que ce livre m'a permis de comprendre pourquoi j'avais hérité de ça. Et d'où venait cette inquiétude généralisée qui s'est transmise de façon inconsciente de ma grand-mère à ma mère, de ma mère à moi, ou de ma grand-mère à moi d'ailleurs, puisque ma grand-mère m'a finalement autant élevée que ma mère. C'est une des questions que je me pose dans ce livre. De quoi hérite-t-on au-delà des gènes, au-delà d'attitudes conscientes, et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage ?
Je réalise que c'est un sujet qu'on a abordé dans plusieurs émissions cette année, très souvent, c'est revenu. Pardon, excusez-moi. Qui était donc, on va quand même arriver au secret, qui était Anne Décimus, cette femme qui signait ses lettres, la fille du soleil ?
Alors, donc Anne Décimus, c'est cette arrière-grand-mère, censée être morte de chagrin à la mort de son mari, et dont j'ai découvert qu'elle était morte quasi nonagénaire. Et l'adresse qui figurait sur le certificat de décès était l'adresse de l'actuel hôpital psychiatrique de Bordeaux, aujourd'hui Charles Perrins, et qui avant s'appelait Château Picon. Et j'ai peu à peu enquêté pour découvrir que cette femme avait passé 40 ans à Château-Picon, donc 40 ans à l'asile.
Vous auriez pu la rencontrer ou pas ?
Non, elle est morte en 64 et je suis née en 78.
Oui, donc vous, non, pardon.
Mais ma mère aurait pu la rencontrer.
Et donc vous découvrez qu'elle a vécu et que... Qu'elle a vécu donc 40 ans ?
Elle a vécu 40 ans à 30 km du village où habitent mes parents, puisqu'ils habitent toujours au sud de Bordeaux.
Personne n'a jamais rien dit, parce que les voisins savaient forcément, hein, des ongles, des tantes. C'est le propre du secret de famille, c'est que tout le monde protège. Hein.
Non, alors, parce que ma grand-mère, quand son père est mort et quand sa mère a été internée, la famille a coupé tout contact avec ma grand-mère et sa sœur, et ils ont laissé les deux petites filles, l'une à l'orphelinat, ma grand-mère, et la plus âgée en maison de correction. Donc il n'y avait plus de famille. Ouais. Et ma grand-mère n'a jamais été en contact avec cette famille-là. Donc, c'était... à l'orphelinat, ce sont les religieuses qui ont dit à ma grand-mère que sa mère était morte. Donc, finalement, ma grand-mère a construit une grande partie de sa vie, voire la quasi-totalité, en croyant que sa mère était réellement morte, comme on lui avait dit.
Et donc, vous avez, à partir de là, vous vous enquêtez, vous avez accès aux archives et vous essayez de reconstituer ce qui a pu être sa vie. Et en fait, c'est aussi un témoignage sur la condition des personnes qui ont été internées dans les années 40, enfin 30-40.
Entre le milieu des années 20 et le milieu des années 60. Et c'est vrai que
c'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est pas du tout ce qu'on imagine. Enfin, moi, c'est pas ce que j'imaginais.
C'était un peu mon interrogation de me demander ce que c'était que passer 40 ans en asile au XXe siècle. Ça paraît difficilement concevable. Enfin, moi, j'avais énormément de mal à imaginer, même si je suis romancière, je suis censée imaginer. Et pourtant, j'avais beaucoup de mal à imaginer ce que c'était que passer 40 ans en asile et aussi ce que c'était que délirer. Et je crois que j'ai fait cette enquête pour répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'on faisait aux patients? Est-ce qu'on arrivait à les soigner? Est-ce qu'on arrivait à apaiser un petit peu leurs souffrances? Comment les occuper? Et aussi, que s'est-il passé pendant la période de la guerre? Parce que cette période de la Deuxième Guerre mondiale a été tragique dans beaucoup d'asiles français. On a même parlé d'hécatombe des fous, puisqu'il y a eu des dizaines de milliers de personnes mortes de faim.
Alors, il faut rappeler qu'à l'époque, d'ailleurs vous le faites, hein, à l'époque, tout est rationné. Voilà, en 1940, les Français se retrouvent rationnés, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de sucre.
Voilà, il y a énormément de pénurie alimentaire,
il
y a du
rationnement. Les gens dans les asiles ne sont pas forcément la priorité.
Et les gens dans les asiles ne sont effectivement pas la priorité.
Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas être soldats. Donc,
Surtout ceux qui n'ont pas de famille pour leur envoyer des colis. Et donc c'était un vrai mystère dans le mystère finalement, comment cette femme isolée de tous a survécu dans cet asile. Alors j'ai trouvé des éléments de réponse dans les archives, notamment en éclairant l'attitude de la direction de l'hôpital. Le directeur n'a cessé d'écrire au préfet, au ministre pour conserver le produit des récoltes et les productions de l'hôpital, puisqu'à l'époque, l'hôpital était...
un peu autosuffisant.
Oui. Il y avait une forme de... Enfin, en tout cas, il y avait une production, avait un potager, il y avait des volailles, il y avait un atelier de couture. Enfin, c'était une petite usine. Enfin, c'était même de...
Presque un village.
Ça ressemble vraiment à un village, oui. Mais alors tout ça a été réquisitionné et le directeur a vraiment essayé de garder une partie du produit de ses productions pour ses malades. Et je pense que ça explique en partie le fait qu'il y ait eu moins de morts de faim dans cet asile que dans d'autres asiles, notamment à Lyon par exemple, où ça a été beaucoup étudié. Et il y a un autre élément que j'ai trouvé, c'est qu'il y a eu des expérimentations par l'université de Bordeaux d'un dérivé de l'arachide qui s'appelle le tourteau d'arachide, qui est censé être un substitut protéiné. Et ça aussi, pendant le temps qu'a duré cette expérience sur les malades, il est possible que ça ait permis d'en sauver une partie.
Et d'ailleurs, dans les lettres qu'on retrouve de votre arrière-grand-mère, elle parle de la nourriture. Enfin, je me souviens pas si c'est pendant la guerre ou avant. Visiblement, elle était pas maltraitée de ce point de vue-là.
Alors,
Est-ce que c'était quelque chose qui vous angoissait de savoir si elle avait souffert ?
Oui, c'était une des origines de mon interrogation. Je pense que c'est ça qui a créé mon choc lors de cette découverte, c'est-à-dire que 40 ans en asile. Je trouve ça terrible. Et je trouve ça terrible à la fois pour mon arrière-grand-mère et aussi terrible pour ma grand-mère. Enfin, je trouve qu'il y a une sorte de violence faite à l'arrière-grand-mère et aussi de violence faite à ma grand-mère à qui on a dit que sa mère était morte alors qu'elle était à 30 km.
Et donc, avec cette femme qui régulièrement demandait à voir sa fille, visiblement.
Voilà. Donc c'est cette question, c'est cette question de la souffrance. C'est qu'il y a deux manques aussi, c'est con. J'ai été autant affectée, je crois, par cette histoire.
C'est que c'est une histoire de double manque, c'est qu'il y a cette mère à qui ses filles manquent, enfin notamment une, et puis il y a sûrement cette petite fille qui a dû grandir avec cette mère qui avait disparu.
Oui, et je trouve que ce mensonge est absolument terrible. Enfin, je crois que c'est l'attachement à ma grand-mère qui a fait que j'ai été autant bouleversée par cette histoire, comme si moi aussi j'étais porteuse de cette souffrance de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère. Et c'est certainement pour ça que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre-là.
Si elle signe La fille du soleil, on ne peut pas imaginer que c'est qu'elle était peut-être heureux, le mot est peut-être trop fort, mais en tout cas pas trop tourmentée.
Alors,
c'est quand même un... Elle signe pas La fille des ténèbres,
alors, oui.
L'enfant de Satan.
Oui, en même temps, croire qu'on est la fille du soleil, c'est quand même lourd. C'est être investi d'une sacrée mission, parce qu'en tant que fille du soleil, elle devait faire régner la lumière sur Terre, donc c'était compliqué. Comme dans les psychotiques, il y en a aussi beaucoup qui se sentent fils de Dieu. C'est pas facile hein, de se sentir comme ça, fils de Dieu, c'est pas rien. Hein. Oui, je ne sais pas si c'était... Non, je ne pense pas que c'était une bénédiction d'être la fille du soleil, à vrai dire.
Vous publiez des extraits de livres, il y a des choses que vous avez censurées parce qu'elles vous gênaient, parce qu'elles pouvaient gêner votre famille. Je ne vous demande pas lesquelles. Hein.
Alors, les extraits de l'aide de la grand-mère sont reconstruites. C'est pas...
Elle n'écrivait pas aussi bien que ce qu'on peut lire.
Ah si, alors, j'ai reconstruit ça... j'ai recréé ça à partir d'un vrai matériau d'écrit. De psychotique. Donc, ils écrivaient aussi bien que ce qu'il y a dans le livre, ce qui a été ma première surprise, parce que finalement, ce n'est pas des gens qui avaient des niveaux d'études forcément extraordinaires.
Je vais juste lire un extrait comme ça pour qu'on ait une idée. Hein. L'autre jour, j'eus l'honneur de solliciter chez vous mon admission en qualité de travailleuse volontaire aux écritures. Le plus gracieusement du monde vous émite le désir. On sait utiliser le passé simple. Vous émite le désir de ce que je soumette à votre bienveillante appréciation, mon savoir. Je m'empresse de le faire et vous prie de trouver ci-joint quelques pages dans lesquelles je tâche d'exposer un peu la vie des aliénés.
Ouais. Oui, alors il y avait des formules de politesse, il y avait la concordance des temps, il y avait du passé simple, il y avait du vocabulaire qui était d'un niveau quand même assez... élevé,
recherché.
Ce qui est absolument fascinant en plus, c'est que la structure grammaticale et logique est conservée. Et dans beaucoup de ces lettres, dans beaucoup de ces extraits, ça peut paraître très bien écrit. Il y a des passages qui sont très bien écrits et qui paraissent très normales. Et puis au bout d'un moment, ça part complètement en vrille et ça délire complètement. Notamment, il y a une lettre qui est typique de ça dans le livre. C'est que tout a l'air logique. Et juste à la fin, elle signe La fille du soleil. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même un truc qui ne va pas.
Une fêlure. On écoute un peu de musique et on vous retrouve... Je me souviens plus, on dit du pays,
hein.
Stéphanie Dupéy, je rappelle, vous êtes l'autrice de Un puma dans le cœur aux éditions de l'Olivier. Un peu de musique. It's too late if we try. Voilà, voilà, ça s'appelle Stay et c'était Lua, c'est un extrait de la Fresh List de Radio Campus Paris.
La relève sur Radio Campus Paris.
Et nous, on est toujours avec Stéphanie Dupailly. Un puma dans le cœur, c'est le titre de son livre, pas de son roman, de son récit. C'est paru, ou ça a paru, je crois, quand on parle bien français, comme son arrière-grand-mère, aux éditions de l'Olivier. Vous dites, vous écrivez, peut-être que personne ne supporte, peut-être que personne ne supporte la souffrance à sec, mieux vaut la couler dans un récit qui lui donne un sens. Et en vous lisant, j'ai eu l'impression que pour vous, ce qui était aussi important, c'est que le récit qui donne du sens, il faut qu'il soit vrai, parce que votre grand-mère, elle en a un récit, mais c'est pas le bon.
Oui, effectivement, je pense que ce livre a voulu rendre justice à cette femme qui avait été niée de l'histoire familiale, puisqu'on l'a quand même fait passer pour morte.
On va redire qu'elle s'appelait Anne Décimus. Anne Décimus. Je trouve important de dire son nom,
ouais.
Si vous m'autorisez.
Oui, oui, un nom qui d'ailleurs est assez tragique. Hein. Mmh. Tout le monde pense que c'est faux, mais non, c'est son vrai nom, Décimus en latin. Ça Décimé. Veut dire, ça donnait décimé, donc tuer un sur dix. C'est un nom qui déjà porte une tragédie. Mais justement, j'ai voulu essayer d'effacer cette légende. Cette légende de, finalement, alors dorée, c'est, disons, peut-être pas dire une légende dorée, parce que mourir de chagrin, c'est pas non plus très marrant, mais en tout cas, il y avait quelque chose de beaucoup plus noble là-dedans que dans l'idée de passer 40 ans en asile. Et moi, j'ai voulu effectivement restaurer la vérité de cette femme, alors qui n'est pas forcément une. C'est pas toujours une vérité factuelle, parce qu'il y a du romanesque, il y a de la fiction dans ce texte. C'est pas forcément une vérité. J'ai essayé d'atteindre la justesse et la vérité sur ce qu'était la vie de cette femme, de vraiment rendre compte des conditions de vie d'un malade en asile, en me fondant sur des documents, sur de vrais rapports, en interviewant des spécialistes. Des spécialistes d'histoire de la psychiatrie. J'ai essayé de trouver des preuves. Donc il y a un usage des archives dans ce texte-là, parce que j'avais besoin justement d'objectiver et de substituer la vie, un semblant de vie réelle de cette femme à cette légende et cette négation dont elle avait fait l'objet. Mais après, ça ne veut pas dire que tout est vrai au sens où tout est factuellement vrai, tous les événements sont décrits comme ils ont eu lieu. La vérité du romancier, je pense que ça se mesure plus en termes de justesse. Je ne me suis pas interdit d'inventer des scènes, mais d'inventer des scènes qui sont vraisemblables et qui correspondent à ce qu'était la vie d'une malade. J'ai pas voulu inventer, par exemple, une sorte de happy end où elle serait sortie de l'asile, elle serait partie refaire sa vie avec un nouvel amoureux, par exemple. Ça, c'était absurde et ça, c'était à l'inverse de mon projet. La vie de cette femme avait été niée et je voulais vraiment rendre compte de ce qu'elle avait été.
Tout à l'heure, je vous demandais le temps qu'il vous avait fallu pour pouvoir écrire sur ce sujet, mais quel temps il vous a fallu pour trouver une forme, parce qu'il y a une forme particulière, avec des passages qui sont écrits en vers, il y a de la poésie, il y a une deuxième partie qui est plus, pas théorique, mais qui ressemble plus à une recherche de sur la vie, où vous citez des auteurs, où vous lisez des livres.
Alors, il m'a fallu des années entre le moment où j'ai découvert Le Secret de Famille et une dizaine de 10 ans en fait, entre le moment où j'ai découvert Le Secret de Famille et le moment où j'ai décidé d'en faire un roman. Et alors, cette forme, je pense qu'elle est arrivée de manière assez expérimentale, c'est-à-dire que j'ai mis sur la page tout ce que je voulais mettre, donc le récit du Secret de Famille. Des passages en vers libres qui expriment ces émotions que j'arrivais pas à exprimer autrement et qui n'arrivaient pas à s'exprimer dans ma prose qui est en général assez sèche et directe. Sans avoir forcément d'ailleurs la certitude, enfin j'avais même aucune certitude que ça ferait un livre à la fin. J'ai juste tout mis sur la page et puis au bout d'un moment ça s'est agencé de telle sorte à ce que j'ai bien vu qu'il y avait un livre possible.
Alors je ne sais pas si c'est votre mère ou si c'est des scènes que vous avez inventées pour la nécessité du récit, mais quand même je vais vous demander quel est le rôle que vous lui donnez? Parce que finalement, est-ce qu'elle ne vous a pas confié la mission d'aller chercher? Parce que son histoire, qu'elle ne trouve pas, les, je ne sais pas si c'est vrai, ses archives, vous trouvez ça en deux minutes. Vous ne croyez pas qu'elle a... Je me suis vraiment demandé si au fond, elle n'avait pas... sentait bien un truc, elle aussi, et puis elle s'est dit, je vais laisser ça à ma grande de faire ça.
Alors, c'est vrai que c'est la première fois qu'on formule cette hypothèse. C'est vrai que c'est une hypothèse intéressante, en effet. Je pense que...
Et elle peut continuer à dire que c'est comme ça.
Ouais.
Vous avez fait le travail pour elle.
Je pense que ma mère...
Si la question est trop difficile, on peut passer à autre chose. Hein.
À vrai dire, je pense que ma mère n'a peut-être pas cette facilité que j'ai, moi, à enquêter, à solliciter des administrations,
Non, mais elle vous donne le point de départ.
Hein. Oui, à ouvrir des portes, une fois que, même si on m'a fermé 10 fois la porte avant. Je pense que ma mère n'a pas ça, parce que moi, j'ai l'habitude de travailler avec les administrations, j'ai l'habitude d'enquêter, j'ai l'habitude de m'acharner, j'ai l'habitude de chercher jusqu'à ce que je trouve. Donc c'est effectivement plus facile pour moi. Écoutez, en tout cas, ma mère m'a laissé faire, et maintenant que c'est fait, je pense que c'est bien fait, finalement.
Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir rencontré cette arrière-grand-mère?
Je pense que ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. Justement, sur cet héritage d'inquiétude, d'angoisse, qui est quand même un peu compliqué à gérer. Donc ça m'a permis de comprendre d'où ça venait. Ça m'a permis aussi une forme de réconciliation, parce que c'est vrai que je crois que j'en voulais quand même un peu à mes parents ou à ma grand-mère de m'avoir transmis cette vision du monde qui est quand même pas super facile à vivre, parce que quand on croit que si on prend un avion, il va s'écraser, si on sort dans la rue, il va se passer un drame, il va forcément arriver un malheur, c'est quand même pas totalement évident. Donc ça m'a permis de comprendre d'où ça venait et de comprendre pourquoi ils étaient comme ça. Je crois aussi que le fait de mettre en récit, de faire un objet matériel qui est ce livre, de cette histoire sur laquelle il n'y avait pas de mots et que j'arrivais pas à saisir, ça m'a aussi beaucoup aidé, et maintenant j'ai l'impression que c'est un dossier clos.
Ça a changé quoi dans votre vie d'écrivain? Je vois le temps qui tourne.
Dans ma vie d'écrivain, je pense que ça a changé beaucoup de choses dans mon écriture. Ça m'a permis d'essayer une forme qui est moins classique et beaucoup plus libre, qui fait aussi une plus grande place à l'image et qui est un peu décorsetée, si on peut dire. Un peu comme si Anne Décimus avait instillé une sorte de sa folie dans mon écriture à moi.
Alors, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est vous qui avez écrit ces trois vers, mais ils sont tellement beaux. Cesser d'être une île, faire fondre le soleil, revoir ma fille chérie. On lui laisse le mot de la fin.
Oui, alors, et ce qui est drôle, c'est que je ne sais même plus, à vrai dire, ce que j'ai inventé, ce qu'elle a écrit.
C'est vrai? Vous en avez une espèce de fusion entre vous?
Ouais, je crois un peu.
Bon, écoutez, merci d'être passé par le studio, Stéphanie Dupéis. Je rappelle le titre de votre livre, Un puma dans le cœur. Merci d'être resté dans cette étuve aux éditions de. Donc, j'aurais dit, Stéphanie Dupéis, Un puma dans le cœur, aux éditions de l'Olivier. Voilà, c'était La Relève, produite et présentée par Christophe. Bientôt, l'état liquide. La réalisation était assurée par Jefferson. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le site web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. En attendant, c'est le programme musical de Radio Campus Paris à 19h. C'est l'heure de la matinale et nous, on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée.